Magnifique chant. J'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que j'écoute ce chant. Pour moi, c'est un peu un de ces hymnes que de temps en temps, quelqu'un écrit, qui est inspiré et qui touche le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? J'en vois déjà quelques-uns alors que je pose la question. Parce qu'en fait, on a préparé des sièges ici juste pour eux. S'ils n'ont pas trop peur de moi et puis qu'ils sont d'accord de s'approcher, j'aimerais bien qu'ils viennent s'asseoir là. Même ma fille hésite, hein, c'est dire. Bon, vous n'êtes pas obligés, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. Ah, il y a des courageux qui arrivent. Ouh, bravo! Ce sera plus facile. Dès qu'il y en a un ou deux, les autres vont peut-être suivre, hein, on verra. Bon, bienvenue les enfants en tout cas. Mardi passé, alors que je me préparais un petit peu pour ce temps du dimanche, j'ai été me balader en forêt. Est-ce que ça vous arrive de vous balader en forêt? On n'a pas tous une forêt juste à côté de chez nous, hein. Moi, j'ai de la chance d'habiter ici à Mérin, et puis le matin, je peux aller dans la forêt. Et j'aime beaucoup ça. Et puis, voilà, je réfléchissais, je priais, je parlais avec Dieu. Et je me suis assis sur un rocher. Et puis, j'ai commencé à regarder autour de moi. Et puis, j'ai remarqué, en fait, à quel point il y avait plein de choses dans cette forêt. Il y avait des gros arbres, des chênes solides, avec des racines qui allaient très profond. Et puis, il y avait aussi des petits arbustes juste à côté, qui venaient de naître, qui étaient là depuis quelques temps. Il y avait des feuilles mortes, il y avait toutes sortes de choses, une grande diversité. Ça m'a fait penser à l'église. Je me suis dit, l'église, notre église ici à Mérin, c'est un petit peu la même chose. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, ils ont des grosses racines qui vont profondément en Dieu, dans le sol. Et puis il y a des petites pousses, un petit peu comme vous, qui êtes là depuis pas très longtemps. Et puis on est tous les uns à côté des autres et on forme la forêt. Et tout le monde est le bienvenu dans cette forêt. Il n'y a pas tout à coup la forêt qui dit « Ah non, écoute, toi t'es trop petit, t'as rien à faire ici. » Non, tout ça, ça compose la forêt. Et puis cette forêt, en plus, on en a besoin, parce que c'est un peu le poumon de l'humanité. Parce que vous savez ce que c'est un poumon? Même moi, j'ai un peu de la peine. C'était loin à l'école. Un poumon, c'est un organe, donc quelque chose qu'on a dans notre corps qui nous aide à respirer. Et puis s'il n'y a pas de forêt, eh ben, on a du mal à respirer, disons, hein, simplement. La forêt, elle purifie l'air, et puis c'est bien qu'on ait de la forêt. Si on n'a plus de forêt, on a un problème. Et puis l'église, c'est la même chose. Si on n'a plus d'église, alors la société a aussi un problème, hein. En général, s'il y a une église forte, présente, eh ben, la société va mieux. Parce qu'il y a une présence de Dieu qui est là, dans la société, dans la ville où on est. Alors voilà, ce matin, soyez tous les bienvenus. Que vous soyez un chêne, un hêtre, un arbre solide qui est là depuis bien des années, ou un petit arbuste, peut-être même si vous vous sentez comme une branche morte qui se fait balayer par le vent et puis hop, qui a été amenée ici dans la forêt. Vous êtes tous les bienvenus et puis vous faites tous partie de cette forêt, de cette église. Je vous accueille au nom de Jésus et puis n'oubliez pas que nous sommes appelés à être ce poumon de la ville, de la société, là où Dieu nous a placés.
Moi, je vous invite à rentrer dans ce temps de louange. Je vous invite à rentrer dans cette forêt. Je suis rentré hier soir aussi. J'étais à une petite rencontre d'hommes. On a dormi dans une cabane, bon, plutôt dans une caravane, pour être plus exact. Et ça me fait penser aussi à tout d'un coup, je me suis levé un samedi matin, en fait, dans une cathédrale, en plein milieu de la forêt, avec tout le soleil qui transperçait toutes ces feuilles. Et je m'imaginais exactement ce que Thierry a dit. D'après aussi ces chants qu'on va chanter, je viens dans ta maison. Je me vois aussi dans cette maison-là, mais je me voyais aussi dans cette maison, dans la forêt, avec toute cette diversité. Il n'y a pas besoin d'être dans une église pour chanter ce chant qu'on va faire maintenant. Et je vous invite aussi, tel qu'on est, à le louer. Malgré nos situations actuelles, je vous invite à vous lever et on va chanter ces prochains chants.
soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom parmi eux. Tu donnes et tu reprends.
Seigneur, j'aimerais te bénir. Malgré mes circonstances, c'est clair que ce n'est pas facile tous les jours de venir vers toi et te bénir et te louer. Il y a des moments où on n'a plus envie de peut-être tout balancer. Mais je veux rester vers toi et toujours en confiance que tu es près de moi. C'est pour ça que je veux te louer et te bénir pour qui tu es. Prochain chant que j'aime beaucoup, qui est tiré d'Exo, d'un groupe, c'est « Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. » Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Je vous invite à pouvoir prendre ce chant ensemble. Sur tout le pays,
qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, enclavés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous enflammons ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons
Bonjour à chacun, chacune. Les enfants, ça va être votre tour de rejoindre le culte qui est préparé spécialement pour vous. Il y a des super salles qui sont bien aménagées en bas. Mais en plus des salles, il y a des super animateurs et animatrices pour les potes du dimanche. Qui sont ce matin les animateurs et animatrices des potes du dimanche? Thomas? Thomas! Alors les enfants, vous pouvez descendre avec Thomas, mais j'aimerais encore prier pour vous avant que vous descendiez. On te remercie, Seigneur notre Dieu, pour les enfants que tu nous prêtes. On te remercie pour les familles qui les ont accueillis. Et nous te disons ensemble, Seigneur, que nous aimerions tellement que ces enfants apprennent à te connaître. Nous te prions que cette matinée spécialement préparée pour eux leur fasse du bien. Et je prie pour notre frère et ami Thomas, en te demandant de l'encourager dans le service qu'il rend à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors les enfants, vous pouvez aller avec Thomas, et si Thomas n'est pas sage, venez me le dire à la fin. On ne se connaît pas encore bien, mais ça va venir. J'ai un petit élément de curiosité ce matin. Qui parmi vous a fait des études de type scientifique? Ah ouais, d'accord. Qui parmi vous a fait des études de type commercial? Ok. Qui parmi vous a fait des études de type littéraire? C'est tout? Tu peux lever la main, hein, Mathieu, c'est pas une honte. Hein. Filière scientifique, filière littéraire, ce n'est pas un hasard. Si on distingue entre ces deux types d'études-là, pour la science, et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai jamais fait d'études scientifiques, pour la science, il faut de l'exactitude. Pour la science, il faut éliminer l'ambiguïté. En matière scientifique, on ne laisse pas grand-chose aux émotions ou à l'imagination. Mais en lettres, on laisse de la place pour la réaction subjective des lecteurs. En lettres, on laisse de la place pour des allusions, pour des allitérations. En lettres, on laisse de la place pour le surprenant, pour l'interprétation. Et probablement que le plus dur pour un scientifique, c'est la poésie. Parce que la poésie emploie des images. La poésie va forcer la grammaire. La poésie va même tordre parfois le sens des mots. Elle va jouer avec les mots. La poésie ne dit pas tout. Elle a besoin que le lecteur, la lectrice, l'interprète. Et que le lecteur réagisse autant par ses émotions que par son intelligence. La poésie, c'est quelque chose qui souvent nous surprend. Il y a de la poésie dans un culte. Il y a de la poésie dans un culte. Parfois, c'est la décoration de nos locaux. Souvent, ce sont nos chants. Parfois, ce sont nos prières. Il y a de la poésie dans un culte. Et ça fait sens parce qu'il y a beaucoup de poésie dans la Bible, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste, Job, les psaumes, les proverbes, les prophètes, le cantique des cantiques, poésie que tous les jeunes et vieux amoureux devraient apprendre par cœur, de la poésie. Et cette semaine, j'ai même découvert qu'il y avait de la poésie dans le Nouveau Testament. C'est un peu une surprise pour moi. On trouve dans le Nouveau Testament, par exemple, des citations de cantiques anciens. Et ces citations de cantiques anciens sont généralement signalées dans nos Bibles par une note de bas de page ou alors même par une mise en page particulière. Et pour ce matin, ce que je vous propose, c'est un extrait de cantique du 1er siècle. On va le regarder ensemble. Et on va d'abord lire la péricope qui l'entoure, 1 Timothée 3, les versets 14 à 16. 1 Timothée 3, les versets 14 à 16, que je lis là dans la version dite du Semeur. L'apôtre Paul écrit ceci. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui rappelle la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ, qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par l'Esprit divin. Il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs, on a cru en lui dans le monde entier, il a été élevé au séjour de gloire. Je relis ce verset 16. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Voilà le cantique. Une phrase d'introduction au cantique. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, Christ, qui fait l'objet de notre foi. Suivi par le cantique, il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs, on a cru en lui dans le monde entier, il a été élevé en gloire. Un cantique du premier siècle. Je me rends compte que dit en français, ça n'a pas trop l'air d'un poème. Mais une traduction littérale, comme dans le Nouveau Testament interlinéaire français-grec de Maurice Carrèze, on découvre l'extrême concision de ces lignes. Il y a 6 verbes au passif, et 6 substantifs précédés par une même préposition traduit en français par « en »,« par »,« parmi » et « dans ». Pas de rime, mais un rythme. 6 lignes rigoureusement parallèles. Voici comment la traduction littérale le présente. Littéralement. Lui qui fut manifesté dans la chair, fut justifié dans l'esprit, fut vu des anges, fut proclamé parmi les païens, fut cru dans le monde, fut enlevé dans la gloire. Autre astuce poétique. Les lignes s'organisent par paires. Et dans chaque paire, on peut découvrir une sorte d'opposition entre le terrestre et le céleste. La chair et l'esprit, les anges et les nations, le monde et la gloire. Bon, c'est beau. On peut l'avouer, c'est beau. Mais ce n'est pas encore très clair. Pourquoi ce n'est pas clair? Parce que la poésie ne dit pas tout. Parce que la poésie a besoin que le lecteur, la lectrice, se l'approprie, la mâche, et fournisse en fin de compte lui-même les informations. Il faut que le lecteur, la lectrice, réagisse à la poésie, et réagisse autant par ses émotions que par son intelligence ou sa volonté. La poésie, ça nous surprend. Vous êtes d'accord qu'on aille voir un petit peu plus près? Ça va? La phrase d'introduction. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ, qui fait l'objet de notre foi. Même ici, sans que ce soit forcément de la poésie, c'est un peu obscur. Et la Bible du Semeur est obligée d'amplifier le propos pour que nous, nous comprenions bien. Alors si vous avez sur les genoux ou dans votre téléphone une traduction plus ancienne, vous aurez probablement quelque chose comme ceci. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Je passe là, parce que je n'ai pas le temps, sur la différence entre avouer et reconnaître ensemble, parce que c'est assez secondaire. En fait, nous confessons le nom de Jésus. La piété. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. La piété. L'apôtre Paul ne parle pas ici de forme de spiritualité. Il parle encore moins de bondieuserie. La piété, c'est l'expression de la foi en Jésus-Christ. Et le mystère, ce ne sont pas des formules magiques, ce ne sont pas des messes basses, c'est tout simplement dans les écrits de l'apôtre Paul le plan de Dieu pour le salut du monde. Et ce plan de Dieu pour le salut du monde n'a été que pleinement révélé dans la personne de Jésus-Christ. Du temps des prophètes, c'était comme un mystère, comme un secret. C'était du parcellaire. On ne comprenait que les miettes. Et le secret, c'était que le Messie viendrait, qu'il souffrirait pour pardonner les fautes des hommes et des femmes, que son pardon serait accessible aux gens du monde entier, sans distinction, et qu'ils formeraient ensemble un peuple nouveau. C'est cela le grand secret, qui n'est plus du tout un secret aujourd'hui. Et le grand secret tient en un seul mot, en une seule personne. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quelques mots sur le poème, maintenant. Avec tout ce qu'il sous-entend, ce poème, avec la réaction qu'il pourrait susciter de notre part, si nous nous l'approprions, mais ce n'est pas une obligation. La première paire du poème. Lui qui fut manifesté dans la chair fut justifié dans l'esprit. Lui qui fut manifesté dans la chair fut justifié dans l'esprit. La chair, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est simplement une manière de parler de la réalité de la vie humaine, de la vie corporelle. Christ est devenu un être humain. Il s'est incarné. Dieu s'est incarné. Nous allons le fêter dans quelques semaines, n'est-ce pas ? Dieu s'est incarné dans un enfant, un petit enfant. Le Dieu créateur qui a inventé le langage a appris à parler. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre a appris à marcher, à digérer. Il s'est incarné. Si cela nous paraît banal ce matin, c'est que nous ne sommes pas des Grecs du premier siècle. Parce que pour eux, le Christ devait être supérieur à l'humanité. Le Christ devait être un ange puissant, un demi-dieu, une apparition divine. Mais non, dit la Bible, il naît comme nous, il grandit comme nous, il travaille comme nous, il souffre comme nous et il meurt comme nous. Il est l'un de nous. À trois exceptions près. La première, c'est qu'il n'a pas de père humain. La seconde, c'est que lui ne commet jamais de péché. La troisième, c'est que sa mort expie le péché du monde. Mais c'est un homme sans péché. C'est un vrai homme qui meurt à la place des hommes. Celui qui est la parole de Dieu est devenu un homme. Jean 1, verset 14. Et cela, mes amis, ça m'inspire un sentiment d'émerveillement, de reconnaissance, de confiance. Dieu s'est incarné. Il est venu me rencontrer. Le chemin que je parcours ce matin, il le connaît. Il m'aime. Il ne me laissera pas tomber. Voilà quelqu'un qui nous comprend. Voilà quelqu'un qui nous a rejoints. Pas besoin de chercher ailleurs. La poésie ne dit pas tout. Voici d'autres subtilités dans ce couplet. Il fut manifesté. Dans le grec, on va pas faire 3 heures, hein, mais on passe du substantif neutre, mysterion, au pronom relatif masculin. Ce qui veut dire que le secret, c'est pas une théorie, c'est une personne. Le secret, c'est Jésus. Il fut manifesté. Ce qui implique qu'il existait avant. Il n'a pas commencé à exister quand l'ange Gabriel s'est présenté devant la Vierge Marie. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu, Jean 1, verset 1. Il s'est donc révélé. Il a été manifesté, non pas dans une gloire qui nous aurait écrabouillés, mais comme un simple homme, l'un de nous, quel abaissement. Il fut justifié, ce qui implique qu'avant d'être justifié, il a été accusé, condamné, traité comme un criminel, comme un coupable. Et ça, c'est le message de la croix. Un imposteur, un blasphémateur, un maudit, un homme abandonné de Dieu. Mais après les tourments de son âme, il a été reconnu juste, pleinement. Il n'est pas mort pour ses propres fautes, mais pour les nôtres. La preuve tangible de la réussite absolue de cette opération de sauvetage, c'est la résurrection, dont des centaines d'hommes et de femmes ont été témoins. Ça a marché, la preuve c'est qu'il est ressuscité. La preuve tangible, c'est la Pentecôte aussi, que des milliers de personnes pouvaient raconter la venue de l'Esprit qui nous a profondément bouleversés. Mais la phrase utilisée dans le cantique va plus loin que cela. Il a été justifié, dit le texte, dans l'Esprit, avec ou sans majuscule, c'est pas important. C'est-à-dire dans le domaine de l'Esprit, dans la sphère céleste, en contraste avec le domaine de la chair. La terre et le ciel ont vu qu'il était un homme juste. La deuxième paire, il fut vu des anges, il fut proclamé parmi les païens. Au ciel, les anges. Sur terre, les païens. Les nations. Le ciel est témoin du succès de la mission du serviteur. Le ciel salue, le ciel voit le succès de la mission. Et le chant qui s'élève à ce moment-là, c'est l'Alléluia de Handel, puissance 12 millions. Et sur la terre, la bonne nouvelle est annoncée aux hommes. Pas seulement au peuple juif, aux nations. Et les nations, ce sont des païens, d'affreux païens. Est-ce que vous voyez la nouveauté ici? Pour nous autres aujourd'hui, une vision globale de l'humanité, ça va de soi. Le monde, c'est un grand village. On n'accepte plus la discrimination, on la dénonce. Parfois vivement. Mais au premier siècle, il y avait de véritables murs entre juifs et non-juifs. De véritables murs entre grecs civilisés et barbares, entre citoyens romains et esclaves, entre hommes et femmes. Des murs. Et la bonne nouvelle a été proclamée à tous. Pas comme une proposition philosophique à débattre autour de la table, hein, mais comme la déclaration d'un messager royal qui vient sauver son peuple. Le cantique ne dit pas que du vivant des apôtres, l'évangile a été annoncé en Chine, ou en Suisse, ou en Australie. Du vivant des apôtres, ça n'a même pas été le cas. Mais le cantique dit que le mur est tombé, que la parole a été libérée, que la nouvelle de la victoire du Christ est désormais sur tous les chemins, y compris sur les chemins de Mérin. Par notre culte, nous nous associons au chant des anges. C'est tellement bon de chanter ensemble. Et merci aux présidents de culte, merci aux équipes musicales de nous conduire dans le chant. Nous nous associons au chant des anges. Ça a du sens de chanter le dimanche matin. Et ensuite ? Eh bien ensuite, par notre engagement cohérent, concret, nous participons à l'annonce de l'évangile dans le monde. À commencer par Mérin, jusqu'aux extrémités du monde. Notre louange nous pousse à dire la bonté de Dieu. La troisième paire, et je conclus. Il fut cru dans le monde, il fut enlevé en gloire. Le miracle de l'incarnation, le miracle de la rédemption, de la résurrection, de la Pentecôte, c'est pas tout. Ce message, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, dit 1 Corinthiens 1, 23, ce message a été cru. Ou plutôt, Christ a été cru. Un bonhomme comme l'apôtre Paul, qui n'a aucune prestance physique, arrive dans une ville comme Thessalonique où il connaît personne. Il fait face à l'hostilité la plus âpre de ses coreligionnaires juifs. Il fait face à l'hostilité de la population païenne de la ville. Et en l'espace de quelques semaines, une église locale se crée et se maintient. Parce que Christ est cru. Un couple discret, comme Priscille et Aquilas, arrive à Éphèse. Ils tissent des liens avec les gens. Ces gens se convertissent. Arrive l'apôtre Paul qui prend le relais, qui est formé par eux. Et l'une des plus grandes églises de l'Antiquité se crée. Pourquoi ? Parce que Christ est cru. Et tout au long de l'histoire, c'est comme ça. Christ est cru. Au Japon, en Iran, à Madagascar, avec leur cortège de martyrs, dans les jungles de Papouasie et de l'Amazonie, dans les jungles de nos villes, dans l'Himalaya, dans l'Atlas, au Laos, aux confins du monde, Christ a été cru. Et ça me pousse à louer Dieu. Que Christ règne, que son esprit donne à notre témoignage une certaine puissance de conviction, de transformation, ça me pousse à louer Dieu. Je crois que nous ne devrions pas nous demander comment il se fait que beaucoup ne se convertissent pas. Nous devrions plutôt nous demander comment il se fait qu'aujourd'hui encore un message tellement étrange, tellement décalé, soit encore accepté. Christ est cru. Sa personne, ses actes, son enseignement, sa résurrection ont convaincu. Et son esprit fait naître de nouveau et rassemble un peuple bigarré, disparate, varié. Et chronologiquement, on arrive à la fin du cantique. Christ a été manifesté en tant qu'être humain. Il a été reconnu juste par les puissances du ciel. Il a été annoncé et cru parmi tous les hommes. Point barre. Fin de l'histoire ? Non. il a été élevé dans la gloire. On pourrait dire que c'est une sorte de retour en arrière. Il vient de la gloire et il y retourne. C'est la troisième fois que le ciel revient dans ce poème. Et je pense que si le ciel est tellement présent dans ce petit poème, c'est pour que nous, aujourd'hui, nous levions nos têtes. C'est pour que nous regardions aux choses à venir, aux choses invisibles. Aussi beau et fort soit le programme et le progrès de l'Évangile sur la terre, notre confiance, notre foi se tourne vers Jésus-Christ, devant qui un jour tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Je conclue. Comme dit, je crois qu'un cantique peut nous aider à exprimer notre louange à Dieu. Un cantique peut parfois nous interpeller. Ce que je vous propose, c'est que celui-ci nous laisse avec deux questions. Est-ce que je m'associe à l'élan de louange que le Christ suscite sur la terre et dans le ciel? Est-ce que la louange qui lui est due est la mienne? Imparfaitement. On ne chante pas tout juste. Des fois, on se trompe en tapant dans les mains, quand on tape dans les mains. Mais le cœur. Est-ce que mon cœur célèbre la louange de Dieu? Est-ce que je suis étreint par l'amour de Christ pour moi? Et une deuxième question, est-ce que je me place dans le prolongement de sa victoire pour que son nom soit proclamé dans le monde entier? Je ne pars pas en Papouasie. Probablement, j'irai jamais au Laos. Parfois, j'ai même de la peine à passer la frontière. Mais Mérin. Et puis, si tu n'habites pas Mérin, ce n'est pas grave. Dans ton quartier, sur ta commune, ou on va faire plus petit, dans ta famille, sur ton lieu de travail. Un poème ne dit pas tout. Un poème a besoin que le lecteur, la lectrice, l'interprète, le mâche, que le lecteur, la lectrice réagisse autant par ses émotions que par son intelligence et sa volonté. J'espère que le poème d'1 Timothée 3,16 fait sens pour nous ce matin. Amen.
Tu étais là dès la création, fils unique.
victorieux, le nom de Jésus. J'aimerais maintenant demander à 4 volontaires, et puis Philippe également, de me rejoindre ici. Nous allons prendre la Sainte Cène. Ce Jésus que nous célébrons, ce Jésus que nous louons, ce Jésus dont nous avons entendu parler dans ce poème, alors qu'il était avec ses disciples à la fin de sa vie, leur a laissé un commandement. Il leur a dit, à chaque fois que vous ferez ceci, à chaque fois que vous serez ensemble, que vous mangerez, vous célébrerez la Pâque, faites ces choses en mémoire de moi. Il nous semble difficile aujourd'hui de se dire, mais pourrait-on oublier ce que Jésus a fait à la croix, cet acte tellement central dans nos vies, dans notre vie d'Église? Oui, je crois que c'est possible. Parfois, on n'oublie pas le fait qu'il a accompli cela, mais on oublie la portée que ça a dans nos vies. Et régulièrement, il faut se le rappeler. Et c'est cela que Jésus a laissé à ses disciples. Il leur a dit, faites ceci régulièrement pour vous souvenir de ce que j'ai accompli et aussi pour vous souvenir de la portée de ce que ça a dans vos vies et dans la vie de tous ceux qui forment l'humanité. Alors, merci de me rejoindre. 4 personnes avec Philippe. Pour ceux qui nous visitent, sachez que nous avons la coupe, pour ceux qui le désirent, avec du vin. Nous avons aussi des petits gobelets, les blancs sont avec du vin, et puis ceux au centre, qui sont un peu violets, ont du jus de raisin, et puis il y aura aussi du pain. Alors je vais prier pour cette scène, et puis on partagera cela tous ensemble. Et puis qu'on puisse vraiment se souvenir de ce que Philippe nous a dit aussi à la fin, on veut participer à la louange des anges par rapport à ce que Dieu a accompli, alors qu'on prend aussi cette sainte scène tous ensemble. Merci Jésus, merci pour tout. Il n'y a juste pas de mots pour décrire ce que tu as accompli, ce que tu as vécu, ce que tu nous as laissé comme héritage. Et on te loue ce matin encore une fois pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu fais au travers de nos vies aussi. Et on prend ce repas comme tu nous l'as demandé pour se rappeler de ce que tu as fait. C'est-à-dire on ne veut pas oublier, on ne veut jamais oublier ce que tu as accompli. Et merci de nous donner toujours une révélation plus grande de ce que cet acte accompli à la croix, de la portée que ça a dans nos vies tous les jours. Amen. Puis alors qu'on prend cette sainte scène, je propose aussi qu'on puisse chanter ce chant que j'espère beaucoup connaissent, Jésus-Christ est Seigneur, comme pour proclamer que Jésus est notre Seigneur tous ensemble ce matin.
De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu, juste à nous, pécheurs perdus, de toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simplement serviteur, Jésus vint vers nos pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix, l'obéissant c'est Seigneur.
Amen. Nous allons maintenant passer un temps d'offrande. Sachez que le temps d'offrande n'est pas obligatoire. Si vous êtes là en visite, ne vous sentez pas forcé de participer à ce temps. Mais sachez simplement que cette communauté, cette église vit des dons de ceux qui la visitent, de ses membres. Alors merci d'avance pour votre générosité. On va également faire un chant pendant ce temps d'offrande. Je vous invite à vous lever. Je crois que les temps d'offrande doivent être des chants, des temps joyeux où on donne avec joie. C'est à cela que la Bible nous invite. Pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de voyager en Afrique, vous avez certainement vu des temps d'offrande très, très joyeux, très exubérants. Et c'est vrai que ça peut surprendre quand on sort de la Suisse pour aller là-bas. Mais j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est vrai que ça reflète finalement peut-être ce que ces temps d'offrande devraient être. Souvent, voilà, tout le monde vient devant en dansant, en musique, et verse l'offrande. Donc voilà, je ne vais pas vous demander de faire ça. Je vois déjà de l'inquiétude qui est... Non, moi non plus, voilà, je suis un bon Suisse. Hein. Mais je trouve le concept intéressant. Et puis voilà, qu'on puisse chanter à Dieu alors que nous donnons un peu de notre argent pour le louer aussi. Merci. Merci Seigneur, parce que si nous pouvons donner dans cette offrande, c'est parce que toi, tu nous as donné en premier. Tu nous as tellement donné, Seigneur, et on prie que tu bénisses cette offrande, que tu la multiplies, que tu lui fasses porter du bon fruit pour ton royaume. Amen. Voilà, c'est le temps des annonces. Et Michel arrive, magnifique.
J'ai tout un matériel. Voilà. Alors, les annonces du jour. D'abord, reprendre quelques éléments de notre programme de la semaine. Mardi, la prière communautaire. Jeudi, la rencontre du conseil. N'oubliez pas, dimanche prochain, il y a le changement d'heure. Donc, ce sera bien à 10h. Voilà. Avec la prédication de Jean Bierry que nous avons pu connaître pour ceux qui étaient au week-end, lors du week-end. Vous reparlez de l'action Paquet de Noël qui approche. Nous avons reçu les papillons que vous pouvez trouver là à l'extérieur. Il faut savoir que les paquets seront faits à partir du 8 novembre. Donc, il ne faut pas tarder à amener les denrées alimentaires, les objets qui composeront ces paquets. Remarquez qu'il faut que les denrées alimentaires prennent garde aux data parce que évidemment envoyer des choses qui sont un peu limitées au niveau du data, hein, c'est pas très réussi. Et ne rien mettre d'autre que ce qui est dans la liste qui est proposée. Anne-Marie Wenger est à disposition près du panneau qui est à la sortie pour toute question que vous pourrez avoir. Et il y aura également une tirelire de cette manière, de cette façon-là, pour, si vous désirez, par une contribution financière, participer à cette action. Voilà, du 9 au 12 novembre, c'est la kermesse œcuménique de Mérin. Nous y sommes impliqués. Déjà le jeudi 9, l'Église évangélique est l'instigatrice de ce spectacle d'Alain Audercet qui aura lieu au Théâtre Forum Mérin. On a besoin de 4 personnes pour l'accueil, pour la sortie, 4 personnes également pour prier, qui soient disponibles pour des gens qui seraient interrogés par le spectacle d'Alain Audercet. Ensuite, nous avons également besoin de personnes pour la kermesse œcuménique, pour le démontage et le montage, pour la librairie, pour le stand d'animation enfance. Vous voyez que notre Église est présente dans ce cadre-là. C'est une occasion de témoignage, de présence vraiment au cœur de la cité de Mérin. Vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous adresser à Claude Parnigoni ou à David Jeunecamp. Et puis, la prière de l'Église est aussi demandée pour que, au travers de ces actions, la présence de Dieu soit manifeste dans la kermesse œcuménique. Nous vous rappelons également cette manifestation aussi, 18 novembre au Forum Fribourg, One. One, c'est une manifestation qui est organisée par diverses fédérations d'Églises, l'Église apostolique, les Églises de réveil, l'AFRE, notre fédération, avec également la Ligue pour la lecture de la Bible, MEDER, enfin différentes œuvres chrétiennes. C'est l'occasion d'avoir des enseignements avec des orateurs de qualité qui feront des courtes interventions, dit l'organisateur, mais également de découvrir des talents, c'est-à-dire des talents qui s'expriment de toutes sortes de manières. Ils donnent par exemple des talents culinaires, des talents musicaux, voilà, toutes sortes de talents qui seront en fait dans un village des talents, et on pourra circuler et découvrir ce que des personnes de nos fédérations d'église ont à cœur de proposer. Il y a une vidéo que vous pouvez voir sur oneevent.ch. Je vous encourage à aller découvrir cette manifestation commune à nos églises évangéliques. Et puis, finalement, une remarque importante par rapport au parking. Mardi dernier, en fin d'après-midi, donc c'était le 17 octobre, une voiture a touché l'angle du parking de la maison qui est juste en face de notre église. Vraisemblablement, c'est quelqu'un qui est sorti du parking et puis, en faisant la manœuvre, a touché légèrement l'angle. Malheureusement, il y a des dégâts et c'est bien embêtant. Voilà. Si vous avez des infos à ce sujet, vous pouvez vous approcher de Philippe ou de Claude qui ont reçu la voisine mardi dernier, la voisine qui n'était pas très contente, effectivement. Et puis Claude ou Philippe sont à disposition pour trouver une solution à ce problème. Je vous rappelle également, par rapport au parking, on est nombreux, on a beaucoup de voitures et on a relativement peu de places de parking. Voilà. Alors, on les parque là-dehors. Ce à quoi il faut être attentif, c'est que lorsqu'on parque deux voitures l'une derrière l'autre, la voiture de derrière n'empiète pas sur la route. Il y a déjà eu des remarques. Autrefois, on en a vu réapparaître à cette occasion, à l'occasion de cette petite touchette-là. Prenez garde à ça. Si ça ne va pas, vous allez au parking, c'est clair, ça fait 2 francs pour la durée du culte au parking payant, mais il vaut mieux mettre 2 francs là qu'avoir de mauvaises relations avec nos voisins. Et d'autre part, nous vous recommandons, de ne pas utiliser les places parking visiteurs des immeubles voisins. parce que ça, c'est une source de tension qui n'est pas souhaitable. On est conscient également que le parking n'est pas utilisé de manière opportune durant la semaine. On va réfléchir encore à quels sont les moyens qu'on peut employer pour que les places soient à disposition des membres de notre communauté, ne soient pas utilisées comme parking de délestage pour la COP ou pour les chantiers de derrière. Voilà, merci.
Une information. Je sais que notre perception de ce que l'on appelle les réseaux sociaux peut être diversifiée parmi nous, mais je voulais simplement vous signaler que l'Église évangélique de Mérin a créé, avec l'accord du Conseil, sa propre page Facebook. Cette page nous permet d'informer sur nos activités et en particulier sur les activités de type événementiel, le spectacle d'Alain Auderset, bientôt Noël en plein vent, un culte ou l'autre. C'est une information qui est bien référencée sur Mérin parce qu'on peut placer ce qu'on appelle un hashtag, hein, c'est ce petit signal qui ressemble un peu à un H et qui permet aux personnes qui rechercheraient sur Facebook ce qui se passe à Mérin de tomber directement sur la page. Alors, si jamais vous êtes utilisateur de Facebook, n'hésitez pas à aller liker la page, c'est-à-dire l'aimer, et puis ben, parlez-en autour de vous. C'est une communication qui ne coûte rien, qui ne prend pas trop de temps, mais qui peut avoir un bel impact. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut, vous accompagne, vous renouvelle, vous encourage, vous console. Je vous souhaite à chacun, chacune, une belle semaine. Amen.